Chaque semaine, nos amateurs de sport, j'ai le privilège de m'entretenir avec des entraîneurs, des coachs dans différents sports. Très souvent autour des sports majeurs. Mais cette semaine, c'est la semaine nationale des entraîneurs. Je sais qu'il y a eu des activités, des colloques, des conférences où des entraîneurs entre eux ont eu l'occasion d'échanger en autant que les contraintes de la COVID l'ont permis. D'ailleurs, Daniel Bouchard, notre prochain invité, faisait partie des gens qui ont participé à un symposium en début de semaine avec son conjoint Stéphane Larouche et d'autres entraîneurs. Et on va réaliser des entrevues demain sous cette thématique-là. Et ce soir, je voulais amorcer cet angle-là. On l'a un petit peu amorcé avec Éric Bélanger avant la pause, avec Daniel Bouchard, qui est au bout du fil, qui a accepté notre invitation. En fait, il n'a pas eu le choix. Je pense que c'est Stéphane qui l'a accepté à sa place. Alors, Daniel s'est retrouvé devant le fait accompli. Bonsoir, Daniel.
Bonsoir, Mario.
Comment vas-tu?
Je vais très, très bien.
Daniel, parle-moi du métier d'entraîneur. En quelle année, puis j'imagine que c'est pas si loin de ce que tu fais dans la vie, là, disons, comme pour gagner ta vie également, en plus de ça, comme enseignante. Mais comment as-tu décidé de devenir entraîneur et qu'est-ce que tu préfères dans ce rôle-là?
En fait, c'est un peu un concours de circonstances. Malgré que tout au cours de ma carrière d'athlète, j'ai suivi mes niveaux d'entraîneur, me disant, bon, peut-être un jour, mais c'était quand même pas un objectif. Et c'est lorsque j'ai terminé ma carrière d'athlète qu'une des filles qui s'entraînait avec moi, qui était Nathalie Forget, voulait faire le saut chez les professionnels. Puis elle m'avait dit, écoute, Daniel, quand je vais le faire, je veux que tu sois mon entraîneur. Voilà. Alors, à ce moment-là, je me disais, ben voyons, tu sais, je voulais vraiment pas parce que je savais qu'en m'impliquant dans le monde du coaching, que ça allait être encore un autre travail à temps plein où je devais être au gymnase et j'étais pas prête à m'investir autant. Et bref, après avoir insisté vraiment, Nathalie m'a convaincue de faire le saut chez les entraîneurs. Alors, j'ai amorcé ma carrière, en fait, c'est un peu drôle parce que j'ai amorcé chez la boxe professionnelle. Donc, ça a été mes premiers pas dans le coaching avec Nathalie. Et par la suite, ben disons qu'il y a plusieurs filles qui se sont greffées à ça. Dans ma tête, je me disais, bon, ça va être éphémère. Seulement une, seulement deux, seulement trois. Et finalement, ben je suis encore là aujourd'hui.
Et ça, tu dois être content de la décision que tu as prise à l'époque de suivre ta formation. Puis ensuite, évidemment, tout. Et tu devais jamais penser, as-tu déjà rêvé? C'est-tu un rêve que tu vis là d'être entraîneur de Kim Clavel puis de d'autres athlètes, Daniel? Comment l'as-tu vécu?
Oui, c'est un rêve. Mais c'est drôle parce que c'est comme mes rêves d'athlète, mes rêves d'aller aux Jeux olympiques comme athlète, mes rêves de devenir une championne du monde, de participer à des championnats du monde. Donc, tout ça, maintenant, je le vis à travers mes athlètes. Et c'est vraiment extraordinaire parce que c'est aussi valorisant, aussi enrichissant que de le vivre comme athlète. Donc, j'y ai rêvé, mais pas de cette façon-là.
Dans les sports individuels, la dynamique est nécessairement différente. Éric Bélanger nous disait que dans le hockey, lui, ce qu'il essaie d'intégrer à la suite de sa carrière professionnelle, c'est de dire la vérité. Il y a le sentiment qu'on ne le disait pas toujours facilement, rapidement, puis les jeunes aiment la vérité. C'est un sport collectif. La vérité la plus difficile à dire, c'est à quelqu'un qui est retranché, qui est coupé. Dans un sport individuel, Daniel, quels sont je dirais pas les pièges, mais les défis dans la relation entraîneur-athlète, là, les pièges dans lesquels ne pas tomber, jusqu'où tu vis. Je sais pas, je t'écoute. En fait, c'est une question bien ouverte, là, comme on dit.
OK. Ben en fait, je dirais pas que c'est des pièges parce que la relation que tu as avec des athlètes de sport individuel, c'est vraiment du 1-1. Oui, tu as ton groupe d'athlètes, tu as ton groupe de personnes, d'intervenants qui travaillent avec toi. On forme une équipe. Mais ça relève vraiment de l'individu face à son sport. Donc, la gestion de l'athlète est vraiment différente, par exemple, que d'après moi, dans un sport d'équipe. Oui, je gère les filles entre elles, mais on réussit à avoir un bon esprit à l'entraînement, etc. Donc, le défi de travailler avec une personne, je vous dirais que c'est... Ça se fait naturellement. C'est le lien qu'on crée avec l'athlète. C'est la relation qu'on développe, une relation vraiment de personne à personne, une relation d'aide qui va bien au-delà de la technique de la boxe, etc. C'est très large le rôle de l'entraîneur. ça se limite vraiment, vraiment pas juste au sport. Donc, le défi, c'est de coordonner toutes les sphères de performance et d'arriver à arrimer justement tout, par exemple, le conditionnement physique, la psychologie sportive, la nutrition, que tout le monde, on rame dans le même sens. Et que l'athlète, dans tout ça, se sente bien, se sente confortable. Et je vous dirais que le secret de la réussite là-dedans, c'est la communication. Donc, oui. Parce qu'il y a des
insatisfactions.
Exactement.
Ça m'arrive donc, des fois, moi aussi.
C'est normal, des bonnes confrontations d'opinion. Ça fait partie de notre rôle d'avoir une grande écoute, de pouvoir discuter. Donc, quand on développe une bonne relation, une bonne communication avec ses athlètes, c'est vraiment, vraiment plus facilitant.
Est-ce qu'il y a un piège à côtoyer tellement quelqu'un, à le décortiquer, à l'éplucher, à vouloir l'amener plus loin, de voir plus les défauts que les qualités?
Non, oh non. Ben, pas de mon œil à moi. Moi, je suis une personne qui est extrêmement positive, qui de par mon rôle d'enseignante, je suis très... j'ai beaucoup de pédagogie, donc je vais toujours favoriser l'approche vraiment de la valorisation, l'approche positive, de toujours trouver du constructif, de voir toujours le positif avant le négatif. Bien sûr qu'il y a des correctifs à apporter, tout ça, mais il y a toujours une façon de dire les choses. Et ça, ben heureusement, c'est mon côté enseignante, pédagogue qui me sert très bien dans mon rôle de coach.
Tu vis une particularité, puis j'imagine que c'est pas unique. Là, il doit y avoir d'autres couples d'entraîneurs dans la vraie vie. Tu es conjointe de Stéphane Larouche, entraîneur de boxe bien connu, toi aussi.
Oui.
Est-ce que, une fois que toute la poussière retombe sur quelque chose, ça t'arrive-tu de dire à Steph que je ferais pas ça de même? Et inversement, est-ce que Steph aussi peut te dire la même chose par rapport à une approche? Brainstormez-vous ensemble sur la philosophie de comment coacher un individu parfois.
Ah, certainement, parce que puis c'est très constructif parce que parfois il va m'amener certains points que moi j'avais pas nécessairement vu, parce que quand on travaille depuis des années avec un athlète ou une athlète, on est tellement prêt que parfois on n'a pas le regard externe pour voir certaines choses et vice versa. Donc, même chose avec Stéphane, lorsqu'il travaille avec un athlète depuis très longtemps, parfois moi de l'extérieur, j'observe des choses, des comportements. Donc, c'est très positif de pouvoir en discuter. On n'est pas nécessairement toujours d'accord à 100%, et c'est tout à fait normal. Et c'est ce qui fait que ça amène des bonnes discussions. Puis, je pense qu'on peut juste en ressortir meilleur. Et c'est toujours bénéfique pour l'athlète au bout du compte.
Quelqu'un qui veut, puis je sais pas si on le choisit tout le temps, un petit peu comme tu le disais en début d'entrevue, puis des fois, on devient pas toujours nécessairement coach là à gagner sa vie avec ça, mais à quiconque a envie de s'impliquer, à devenir entraîneur bénévole dans un gymnase, à devenir entraîneur bénévole, tout sport confondu, tennis, badminton, basket, hockey, bon, particulièrement dans les sports individuels, puisque tu es là-dedans, je veux dire, qu'est-ce qui est le plus important pour s'équiper pour devenir un bon coach, Daniel, que si tu avais un conseil à donner?
C'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question. Écoute, je pense que c'est d'être passionné. Je pense que quand tu es passionné pour que ce soit n'importe quelle discipline sportive, tu vas embarquer là-dedans, puis tu vas pas regarder les heures que tu vas mettre. Tu vas pas regarder tout le travail et tu ne le verras pas, heureusement, avant de vraiment te mettre les deux pieds dans le gymnase puis de t'impliquer. Donc, je pense que ça prend un intérêt, une passion. Et à partir de ce moment-là, les portes sont ouvertes, puis tu vas te développer comme entraîneur petit à petit. Et tu sais, un entraîneur, c'est vraiment quelqu'un qui est généreux, qui travaille pour les autres. Donc, souvent, ça rime avec nécessairement pas des gros dollars qui accompagnent ce métier-là, sauf pour ceux qui sont plus privilégiés. Mais en général, un entraîneur, c'est pas facile financièrement de pouvoir gagner sa vie qu'avec du coaching. Donc, il faut avoir une passion démesurée pour son sport.
des propos bienveillants et qui pourraient guider tous ceux qui pensent peut-être à se lancer dans une telle aventure. Daniel, je te remercie beaucoup d'avoir participé à cet échange-là ce soir. Et on va continuer demain avec d'autres entraîneurs qu'on invitera aux amateurs de sport. En fait, on devrait jamais juste parler de ça dans le cadre d'une semaine des entraîneurs. C'est un sujet ouvert à l'année. Merci beaucoup, Daniel.
Un gros merci, Mario. Bonne soirée.